Frères et sœurs, les amis, cette année, nous avons la chance, par le hasard ou la providence du calendrier liturgique, de fêter la Saint-Jean-Baptiste un dimanche. Donc nous prenons les textes liturgiques de cette fête. Alors, dans l'Église, on ne fête pas la naissance des saints, mais le jour de leur mort, qui devient alors leur véritable naissance. Alors ça, c'est un point important parce que ça nous éclaire, ça peut éclairer notre intelligence et notre foi sur justement le mystère de la mort, car lorsqu'un chrétien nous quitte, il naît à la vie nouvelle. J'allais dire que son exil sur cette terre, cette vallée de larmes, est terminé. Il entre dans la patrie céleste. On pourrait dire que sa vie est comme scellée par le mystère de sa Pâque, de sa mort, où il va naître à la vie éternelle. Donc il n'y a que trois personnes dans l'Écriture dont l'Église fête la naissance sur terre: le Christ Jésus, la Vierge Marie et Jean le Baptiste. Le Christ Jésus à Noël, bien évidemment, la Nativité de la Vierge Marie le 8 septembre et la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin, fête d'aujourd'hui. On va parler alors à ce moment-là de nativité, de leur nativité. Cela montre leur destin exceptionnel, si je puis dire, dans l'histoire du salut. Alors la naissance de Jean le Baptiste ne manque pas de solennité, comme pour le Christ. Elle est annoncée d'abord par un ange qui va s'adresser à son père, à Zacharie. Ensuite, il va naître d'une femme réputée stérile. Et enfin, un miracle va accompagner cette naissance. La parole est rendue à Zacharie. Alors j'aimerais que nous nous arrêtions sur justement cette parole qui a été retirée à Zacharie et qu'il retrouve au moment de la naissance du Christ. Alors la symbolique est très belle et très forte. Je cite le texte tout d'abord. On voulait l'appeler Zacharie, mais sa mère dit non, il s'appellera Jean. Jean, tel est le sens de ce nom qui veut dire grâce de Dieu, c'est-à-dire celui en qui se trouve la grâce. Eh bien, ce nom de Jean, qui est tout à fait nouveau, faut se mettre à la place de ceux qui accueillaient cet événement, ce nom annonce en définitive l'économie de l'Évangile. Jean désigne le Seigneur lui-même qui vient, lui par qui la grâce est accordée au monde. Alors les gens qui étaient là, eux, tenaient à ce qu'on appelle cet enfant Zacharie, comme son père, plutôt que Jean. Alors nous voyons bien ici, une fois de plus, que ces gens représentent l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament auquel ils restent accrochés, représentant bien ceux qui, face au Seigneur, qui proposent, lui, le don d'une nouvelle économie, entre guillemets, une nouvelle grâce, désirent plutôt rappeler le sacerdoce ancien plutôt que de rentrer dans cette nouvelle économie du salut. Donc, en quelque sorte, ces personnes s'opposaient à ce que déclarait la mère de Jean le Baptiste. Il s'appellera Jean. Le Seigneur, nous dit le livre du Deutéronome, va susciter du milieu de vous un prophète. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, il vous dira tout ce que moi, le Seigneur, je lui ordonnerai. Dans le chapitre 18 du Deutéronome. Donc cela était annoncé. Cette nouvelle économie du salut était annoncée dans ce livre du Deutéronome que je viens de vous citer. On comprend par là que la personnalité de Jean-Baptiste, que le Christ va traiter comme l'un des plus grands prophètes qui puisse exister, non seulement va clore la grande lignée des prophètes qui vont s'éteindre, des prophètes de l'Ancien Testament qui vont s'éteindre au travers de la personne de Jean le Baptiste, mais, comme chaque fois, vont donner naissance à une nouvelle façon, une nouvelle manière de voir les choses. C'est ce qu'on appelle cette économie du salut, c'est-à-dire la manière dont va être maintenant expliqué le Nouveau Testament. Alors le fait pour Zacharie de retrouver la parole de ce miracle qui s'impose à lui va symboliser une méthode que j'appellerais de rupture. Il y a une sorte de rupture entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais de rupture non pas de cassure, mais une rupture qui donne naissance à une manière autre et nouvelle d'accueillir la façon et la manière dont le Christ va être annoncé et préparé par Jean le Baptiste. Alors comment ici ne pas laisser la parole et s'effacer devant le grand saint Augustin qui pose lui-même cette question bien avant que je me la pose et que nous nous la posions nous-mêmes. Il va nous dire que signifie le silence de Zacharie, sinon que la prophétie a disparu et qu'avant l'annonce du Christ, elle est comme cachée et close. Elle s'ouvre à son avènement, elle devient claire pour l'arrivée de celui qui était prophétisé. La parole rendue à Zacharie à la naissance de Jean correspond au voile déchiré à la mort de Jésus sur la croix. Si Jean s'était annoncé lui-même, la bouche de Zacharie ne se serait pas rouverte. La parole lui est rendue à cause de la naissance de celui qui est la voix, V-O-X, car on demandait à Jean, qui annonçait déjà le Seigneur, « Toi, qui es-tu ? » Et il répondit, « Je suis la voix qui crie dans le désert. » La voix, c'est Jean, tandis que le Seigneur est la parole. Au commencement était le Verbe. Jean, c'est la voix pour un temps. Le Christ, c'est le Verbe au commencement. C'est le Verbe éternel. Voilà, mieux que je ne pourrais lui dire, ce que nous délivre le grand saint Augustin en cette fête de saint Jean-Baptiste. Alors, il est vrai que nous sommes tous un peu, entre guillemets, très modestement, un peu Jean le Baptiste, car tous nous avons à préparer le chemin des parents pour leurs enfants, les ministres du Seigneur pour préparer les voies et accompagner les voies de sainteté de tous et de chacun. Alors demandons en cette fête de Saint Jean le Baptiste qu'il nous donne sa force, sa grâce, mais aussi, je dirais, peut-être tout d'abord son audace, l'audace d'avoir accueilli ce prénom de Jean qui est tout à fait nouveau et qui a inauguré le Nouveau Testament, qui a inauguré la venue du Christ. Amen.